avec un avantage de 2 ou 3 jours sur les rumeurs véhiculées dans le village. Diego disait « Nous, nos soldats, notre guerre, nos difficultés, nos chances de victoire, comme s'ils étaient ces choses personnelles. » Et Monsi s'en agaça légèrement. Après cette brève rencontre que l'ambassade zélée de sa mère avait ourdie par on ne sait quelle ruse et on ne sait quel stratagème, Monse passa des nuits et des nuits sans trouver le sommeil. Devait-elle acquiescer au désir de sa mère, consentir au mariage, puisque c'est bien de mariage qu'il s'agissait, quoique ni elle ni Diego n'en eussent dit un mot. Devait-elle accepter d'épouser un homme pour qui elle n'éprouvait nulle attirance? Un homme qui ne l'avait jamais touché, si ce n'est des yeux, un homme au visage sévère et à la chevelure couleur queue de vache, un homme dont les discours qu'il martelait en public étaient faits d'un langage carré qui l'angoissait. Elle n'aurait su dire pourquoi. Un langage où les mots « efficacité » et « organisation » sortaient de sa bouche comme d'un pistolet. « J'exagère, » dit ma mère, « mais tu comprends. » Devait-elle consentir à ce mariage ? Alors qu'elle aurait donné toute sa vie pour que le français lui revînt. Car à ce moment-là, Monse nourrissait encore l'espoir déraisonnable que, retour du front, le français la retrouverait, l'arracherait à son village et l'emporterait dans son pays pour commencer des jours heureux avec leur petit enfant. Elle pensait à lui la nuit comme le jour. Elle pensait à cet homme adoré qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître, tant les circonstances les avaient pris de court et dont elle ne possédait même pas une photo. Elle pensait à cet homme dont elle ignorait l'enfance, les goûts, les faiblesses, les rencontres qui avaient fait de lui ce qu'il était. Cet homme dont elle ignorait presque tout, dont elle ignorait jusqu'au nom de famille, et dont il lui était impossible par conséquent de retrouver la trace quand bien même elle y mettrait l'acharnement d'un détective, mais un homme dont elle savait qui lui était destiné et qu'elle aimait d'un amour égal au chagrin qui la dévastait. Elle revoyait constamment son visage penché sur le sien. Elle revoyait ses yeux où elle se réfugiait, sa mèche sur le front qu'il relevait d'un coup de tête et la cicatrice en étoile creusée sur sa joue gauche et sur laquelle elle avait posé le plus doux des baisers. Et son absence lui dévorait le cœur. Elle était si occupée de son amour qu'elle ne percevait pas le froid du grenier ni les premiers soubresauts de l'enfant qu'elle portait. Elle eut même parfois le sentiment halluciné que son amant était là, tout près d'elle, pendant quelques secondes, avant de s'évanouir. Les jours passaient, et Monse gardait encore, mais de plus en plus faiblement, l'espoir qu'André Malraux surgirait un jour et la sauverait de cette existence. « Fasse le ciel qu'il revienne », murmurait-elle, tandis que son intelligence décrétait sévèrement la folie d'un tel souhait. Elle vécut 3 mois dans cette attente désespérée, 3 mois pendant lesquels sa mère lui injecta goutte à goutte l'imperceptible poison du chantage au malheur. Elle pensa que si le français ne la retrouvait pas, elle mourrait. Mais son ventre grossissait, le tas des coques augmentait, le français ne donnait pas signe, et cependant, elle survivait. Un jour, elle finit par admettre que le français ne reviendrait jamais. Espérance morte, hormis en rêve. Car j'ai rêvé de lui, ma chérie, pendant des années et des années. Elle envisagea alors 4 solutions. Ou bien elle se suicidait en sautant dans la basse-cour depuis le vasistas du grenier. Ou bien elle se décidait à vivre en fille-mère, comme on disait alors, c'est-à-dire telle una desgraciada, en charge d'un enfant desgraciado et qu'on traiterait de bâtard. L'idée soufflée par Rosita de faire croire à tout le village que l'enfant avait été conçu sans intervention masculine, opération encore appelée parthénogenèse dans les traités scientifiques ou opération du Saint-Esprit dans les traités catholiques, lui paraissant difficilement défendable. Ou bien, elle s'enfuyait pour aller à la ville, accoucher n'importe où, trouver n'importe quel travail et placer son bébé auprès de n'importe quelle nourrice. Ou bien, elle acceptait de se marier. Malheur moins cruel et sans doute plus tolérable que les malheurs précédemment envisagés. Ce fut cette dernière solution que son désir de vivre enverrait contre tout, et la lente pression exercée par sa mère la poussèrent à